On pourrait intituler cette réflexion que je vous propose « Faut-il voir pour croire ?» Alors, la résurrection a eu lieu, mais il a été difficile d'y croire. Thomas est souvent considéré comme le mauvais croyant, celui qui a besoin de preuves concrètes de l'existence de Dieu pour pouvoir commencer à croire. Thomas, c'est le croyant qui ne fait pas confiance, celui qui doute. Alors le doute, à première vue, c'est l'exact contraire de la foi, pour ne pas dire l'ennemi intime selon ceux qui accablent Thomas. Mais est-ce bien cela que nous dit le texte biblique ? Au soir de Pâques, après cette résurrection, les disciples sont enfermés dans un lieu qui leur donne un sentiment de sécurité. Ils sont à l'abri de ceux, je dirais, qui sont à l'extérieur, eux qui craignent de subir le même sort que leur maître récemment crucifié. Marie-Madeleine, souvenez-vous, leur a raconté un peu plus tôt tout ce qu'elle avait vu et entendu près du tombeau vide, sa rencontre avec le Christ et ce qu'il lui a dit. Les disciples, eux, se sont calfeutrés pour se mettre à l'abri, dans une pièce bien fermée. Cela n'empêche pas le Christ de se rendre présent parmi eux et de leur offrir une bénédiction qui répond à leurs besoins du moment et qu'il va répéter, vous l'avez vu, qu'il va répéter comme une obsession, « Que la paix soit avec vous ». Le problème, c'est que Thomas n'était pas là, en tout cas la première fois. À son retour, les disciples lui racontent ce qui s'est passé et la présence du Seigneur, comme il le nomme. Il l'avait donc reconnu. Mais Thomas leur répond qu'il ne croira pas s'il ne peut pas lui-même toucher les plaies du crucifié. C'est d'ailleurs là ce qu'on reproche en général à Thomas, parce qu'on dit de lui qu'il est un piètre croyant qui a besoin de toucher pour croire. Il y a d'ailleurs un texte liturgique qui dit « Enfermé dans son incrédulité, Thomas exige de voir pour croire ». Mais posons-nous une question un peu cruciale ici, c'est qui est enfermé dans cette histoire ? Les disciples ont eu le récit de Marie-Madeleine, ils ont vu le ressuscité. Et que font-ils ? Ils restent calfeutrés, enfermés dans le même lieu. Alors que Thomas arrive, il ouvre une brèche, il crée une fissure, il permet une ouverture. Thomas, qui n'a pas pris pour argent comptant la parole des disciples, Thomas, qui préfère s'en remettre à Dieu plutôt qu'à ses saints, comme diraient certains. Thomas, qui met en doute la parole des disciples, effectivement. Thomas, qui ne se contente pas de cette affirmation rapide que nous avons vu le Seigneur. C'est Thomas qui, par sa soif de vérité, par son refus des évidences toutes faites, ouvre un nouvel horizon aux autres disciples. Il les fait enfin sortir de leur lieu de réclusion et leur permet de parcourir, d'arpenter un lieu de vie. On verra ensuite de la Galilée et de ses vastes horizons. Thomas se met en quête de la vérité et ce que nous révèle ce texte, c'est que cette quête est légitime, est légitimée par le Christ qui s'adresse directement à lui, puisqu'il lui propose de passer à la vérification. Le Christ lui dit de venir le toucher. En répondant positivement à cette quête, en lui donnant cette légitimité, le Christ montre que le doute n'est pas l'opposé de la foi. Au contraire, le Christ souligne que la foi a besoin de se confronter à l'existence et que cette confrontation passe par la critique des évidences, par la mise en doute des paroles un peu trop convenues. La foi, pour être véritablement la confiance, confides, la confiance, suscité par Dieu, a besoin de se confronter à toute notre vie, à tous les domaines de notre vie. En fait, c'est Thomas qui s'avère être le disciple le plus fécond et le plus utile pour cette foi chrétienne naissante. Thomas qui, au passage, n'aura pas eu besoin de toucher pour croire, contrairement à certaines peintures que nous pouvons voir dans l'art. C'est l'esprit libre de Thomas qui sauve finalement ce christianisme qui sans lui serait mort de s'être replié, de s'être enfermé dans ce lieu rassurant comme l'est un cercueil qui effectivement n'offre plus aucune surprise parce que tout est fini. Non, heureux ceux qui ont vu, qui n'ont pas vu et qui ont cru. Thomas comprend que Dieu ne les a pas abandonnés, que tout n'est pas fini par la mort du Christ. Il comprend que d'une manière ou d'une autre, il est encore vivant, que tout ce qu'il a dit et fait les accompagne en cet instant et ensuite. Il leur a donné son esprit qui continue de souffler en eux. Il comprend aussi que Dieu lui-même ne s'est pas endormi, mais qu'il s'est réveillé, qu'il s'est levé pour agir pour eux et défendre leur cause. Thomas n'a pas eu besoin de voir pour croire, et il se révèle cependant visionnaire, de ce que nous pouvons peut-être plus facilement comprendre aussi avec ce que nous a apporté bien plus tard la science. Car la science moderne, par exemple celle du monde microscopique en particulier, avec la mécanique quantique, nous montre que ce que nous voyons n'est qu'une partie très faible de la réalité. La compréhension du monde que nous pouvons nous faire à partir de cette propre expérience quotidienne au microscope ne correspond pas à la réalité profonde même du monde matériel. Il y a beaucoup de choses qui nous semblent impossibles à un moment donné et qui en fait se révèlent possibles un peu plus tard. Et on l'a montré, même une petite particule pouvait même avoir le don d'ubiquité, c'est-à-dire d'être à deux endroits en même temps et interagir avec elle-même. Quand on s'intéresse à la vie, à la biologie, à l'humain, il y a une autre dimension cependant qui est beaucoup plus complexe à appréhender. C'est à côté du corps, celle de l'âme. Cette réalité qui informe la matière du corps vivant pour lui donner sa cohérence, pour faire en sorte qu'on soit en vie, formant une personne consciente. On dit que l'être humain, par rapport à certains animaux, se distingue par le fait qu'il a une conscience de lui-même. L'âme est une réalité qui échappe totalement à l'explication physique, pratiquement même pas du tout à la biologie. Aucune science exacte n'est capable de dire ce qu'est cette conscience, cette partie de nos cellules capable de savoir qu'elle sait exister. Nous sommes conscients que nous existons. Ça, c'est une réalité pourtant. Alors, quant au pouvoir de cette âme, sa nature, ce qu'il en advient lors de la mort physique, personne ne le sait vraiment, à part peut-être ceux qui ont eu des expériences de mort imminente. Mais en tout cas, se cantonner au voir au niveau oculaire est un peu absurde. Comme il est dit magnifiquement dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, que je suis sûr vous avez beaucoup apprécié comme moi, l'essentiel est invisible pour les yeux. La foi concerne justement cet invisible. Le visible, c'est le matériel, ce qui peut se toucher, se compter, se mesurer, tout ce dont peut parler la physique. Mais il y a une part de l'humain qui est précisément inexplicable, qui est précisément au-delà de tout ça, une part de métaphysique, on dira, ou de spirituel. Et c'est par définition croire le fait de s'attacher à ce qu'on ne voit pas. Sinon, on n'est plus dans le domaine du sens ou de la foi, mais seulement dans celui de la science. En réalité, il ne faut pas opposer foi et science. Foi et science se complètent plus qu'elles ne s'opposent. Si Thomas voulait voir la résurrection, il suivrait une fausse piste. La résurrection, elle est d'ordre spirituel, puisqu'aujourd'hui encore, nous disons que le Christ est ressuscité, qu'il vit parmi nous. Et comme il a dit, là où deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Cette présence du Christ, elle est immatérielle, invisible, spirituelle, et pourtant réelle, par notre foi. C'est pourquoi le Christ dit dans le récit de ce matin cette béatitude essentielle, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est le verset 29, si vous voulez vous en souvenir. La foi est au-delà du visible, et pour comprendre le vrai sens de la résurrection, il faut aller au-delà du visible. D'ailleurs, au moment de la résurrection, un peu avant notre texte de ce jour, dans l'évangile de Jean, souvenez-vous, la semaine dernière, il est dit que le disciple court vers le tombeau, y entre, il vit et il crut. C'était au verset 8, bien avant. Or, que vit-il puisque le tombeau était vide ? Bah, rien. Jean vit qu'il n'y avait rien à voir. Il ne vit rien et il crut. Le spirituel, en fait, a besoin de vide pour se révéler. Pour entendre Dieu, pour pouvoir le recevoir, il faut lui laisser une place. Dieu ne se révèle pas dans le bruit, mais dans le silence, dans le recueillement, loin de l'agitation ou le plein d'activité. Mais dans le fait que, parfois, il suffit de ne rien faire. Même accumuler les œuvres serait une erreur. Il faut savoir agir moins pour écouter, pour penser, pour réfléchir, pour comprendre, recevoir. La foi n'est pas non plus se remplir de croyances, de doctrines ou de valeurs morales. Elle a besoin, pour être vivante, elle aussi, notre foi, d'espace, de questionnement, d'interrogation, de recherche, et je le dis d'emblée, de doute. On pourrait même dire que la foi ne peut pas être dans le plein de bonne conscience, mais plutôt s'épanouir dans notre sentiment d'impuissance, dans la conscience de nos limites, pour inciter à nous tourner vers les autres. C'est aussi le sens des béatitudes. Je vous rappelle, dans Matthieu 5, Jésus disait « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, et non pas ceux qui ont de l'esprit à revendre. » Il avait dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, et non pas ceux qui sont pleins de justice. » Heureux celui qui n'a pas tout et qui le sait. C'est ce manque, c'est cette absence qui pourrait l'inciter à avancer, à vivre, à combler ce manque. La foi n'est pas de tout de savoir et de tout comprendre, mais peut-être essentiellement de savoir qu'on ne sait pas tout. La foi, c'est accepter de ne pas tout comprendre, mais de choisir néanmoins de fonder sa vie, ce que j'appellerais, sur un pari fondamental. Ce pari fondamental, c'est une part d'audace, de risque, de courage dans la foi. C'est un engagement, la volonté de sortir de sa sécurité, de son savoir, de ses certitudes, pour aller de l'avant, vers un inconnu. La foi peut se fonder sur ce pari fondamental, je l'ai dit, sur la confiance en un Dieu qui nous guide et nous conduit tout en nous laissant libres. Et c'est important parce que même si nous sommes enfermés dans le doute, nous pouvons faire que ce doute nourrisse nos interrogations et laisse une place à Dieu. J'ai entendu récemment dans une réunion de la Fédération de l'entraide protestante quelqu'un qui a dit qu'il puisse nous rassembler autour de nos doutes plutôt que de nous désunir autour de nos certitudes. J'ai trouvé ça intéressant, en tout cas de le comprendre là. Ici et maintenant. Et puis Ernest Renan, que vous connaissez peut-être, cet auteur n'avait-il pas dit « Tout est possible, mais Dieu, même Dieu ?» Alors il n'était pas vraiment croyant, vous voyez, mais il ouvrait un espace de possible. « Tout est possible, même Dieu. » Alors c'est vrai qu'il ne faut pas tout prévoir, tout planifier, tout verrouiller dans la vie non plus, pour pouvoir vivre et avancer de manière heureuse. Il y a des gens comme ça qui sont très très organisateurs de leur propre vie, un peu à chaque seconde près. Non, il faut laisser de l'espace pour que puisse souffler l'esprit, pour que du nouveau inconnu puisse survenir, pour cet imprévu et cet inconnaissable, qu'il puisse venir à nous et se révéler. Vivre, c'est inventer l'avenir. C'est se rendre disponible à une réalité qui, par définition, n'est pas encore connue, est encore invisible. Et ce droit à l'imprévu du lendemain, c'est aussi une parole utile à ceux, une parole utile à dire à ceux qui sont dans le désespoir. Peut-être même parfois à ceux qui veulent mettre fin à leur jour. Il faut leur dire, tu ne peux pas savoir ce qui va t'arriver demain de bonne heure, imprévu. On ne peut pas savoir quelle bonne surprise peut surgir le lendemain de ton désespoir. C'est d'ailleurs ce que l'on entend aussi dans la conclusion de ce chapitre au verset 30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Là, Jean explique qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas dans l'Évangile. Il ne dit pas tout. L'Évangile ne veut pas dire tout ce qu'il faut croire, faire, espérer, mais il est lui-même ouverture et laisse une certaine liberté. Thomas est un mystique, on pourrait dire, qui préfère fonder sa foi sur ce qu'il expérimente plutôt que sur la doctrine qu'on veut lui enseigner. Il témoigne du fait qu'être chrétien, ce n'est pas juste adhérer à un discours, croire dans le témoignage des autres croyants, mais dans sa propre expérience de la rencontre avec Jésus-Christ. Alors, comme Thomas, il nous faut trouver Jésus dans notre vie. Le Christ ressuscité se rencontre dans la confrontation personnelle. Et si on comprend le verbe « voir » au-delà de la vision oculaire, alors la foi n'est pas de l'ordre de ce qui voit avec les yeux, mais la foi n'est pas non plus seulement écouter un discours ou même y adhérer. Il faut arriver à voir dans un sens nouveau, que je pourrais dire percevoir, comprendre, expérimenter par soi-même. C'est cette grâce, cette attitude positive qu'en fait Thomas aura la grâce d'avoir une apparition du Christ pour lui. Avec un Christ qui lui parle personnellement. Les autres apôtres, regardez bien le texte, n'avaient pas eu vraiment une rencontre personnelle. Ils n'avaient eu qu'une apparition collective avec un Christ qui s'adressait à tous, mais pas vraiment personnellement à chacun. Là, Thomas, qui désirait cette expérience, va pouvoir entrer en dialogue personnalisé avec son Sauveur. Thomas nous invite non seulement à ne pas laisser Jésus dans la tombe, mais plutôt à vouloir le rencontrer personnellement. Et alors on découvre que ce Christ vivant peut en faire bien plus. Il peut faire pour chacun des merveilles. Le Christ ressuscite pour chacun personnellement et il se révèle différemment à chacun selon notre personnalité, notre façon d'écouter. Cela doit nous inviter à chercher nous-mêmes cette rencontre. Et l'évangile de Jean, par ses lacunes assumées, nous invite d'une certaine manière à dire comment pour chacun de nous le Christ peut lui apparaître directement et ce qu'il peut faire pour nous. C'est de l'ordre du personnel, c'est de l'ordre de l'intime. Ce n'est pas une vérité universelle, on ne peut pas le transposer d'un individu à un autre. C'est une vérité qui appartient à chaque chrétien. Ce que dit Jésus à Thomas, ce n'est pas concrètement de toucher son corps glorieux, mais on peut le comprendre comme on dirait maintenant plutôt « mets tes pas dans mes pas ». C'est-à-dire « suis-moi, agis comme moi, agis avec moi à la suite de mon œuvre ». Il faut mettre sa main dans la main du Christ, comme un enfant qui apprend le geste de l'écriture dans la main de son maître. En bref, le Christ l'invite à agir à sa suite et comme lui. C'est là l'expérience fondamentale du croyant, la découverte de ce qu'est le Christ ressuscité pour lui. Cela se fait dans l'absence, dans le doute, dans le questionnement, peut-être même dans le péché et l'incrédulité, tout ce qu'on veut, mais jamais dans l'indifférence. Parce que dès qu'il y a une soif, une recherche, il y a une place pour l'eau vive qui va rassasier. Alors mettons nos mains dans ses mains, vivons cet évangile. Vivons de cette rencontre avec l'invisible et comme Thomas, cultivons notre capacité de témoignage qui rend compte d'une foi personnelle, fruit de notre expérience, de notre rencontre avec Jésus. Soyons comme Thomas, capables d'assumer notre doute et capables d'exprimer notre témoignage.